Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la Mémoire, Anne Colin au micro et j'ai le très grand plaisir et l'honneur d'ailleurs de recevoir Michel Bernard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Honneur parce que je considère Michel Bernard comme un des grands écrivains contemporains. Vous avez une riche bibliographie, même si vous n'avez pas non plus 50 livres à votre actif, mais à chaque fois qu'il y a une parution, on attend avec impatience de vous lire. Vous avez une région d'attache autour de laquelle vous avez écrit, mais aussi des sujets très divers, puisque vous avez écrit un livre sur Jeanne d'Arc, vous avez écrit sur Genevoix, évidemment ça nous renvoie à la guerre, vous avez écrit Le Bon Cœur, hiver 1814, campagne de France, Le Bon Sens, Les Bourgeois de Calais, hiver 1812, retraite de Russie. Pour moi, le plus grand de vos livres, c'est Deux remords de Claude Monet, qui est un livre fabuleux, une promenade littéraire, artistique, écrit avec un style éblouissant. Et puis, vous publiez L'automne d'André Derain, aux belles lettres, dans peut-être ce que je qualifierais un peu un nouveau Michel Bernard, un style plus bref, plus incisif. On est dans une sorte de huis clos, dans un train, et on suit l'itinéraire d'un personnage, un itinéraire de transport, hein, mais aussi un itinéraire de vie, un itinéraire de pensée, un itinéraire de réflexion, et vous nous y emmenez. Alors Michel Bernard, pourquoi André Derain ?
C'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est très connu des historiens de l'art, des amateurs éclairés de la peinture, mais qui est méconnu du grand public, voire ignoré du grand public. Or, c'est un très grand peintre. Et j'aime particulièrement André Derain parce que c'est celui qui, alors qu'il avait été un des initiateurs de l'art moderne, et même avec Picasso et Matisse, le principal initiateur, le principal inventeur de l'art moderne, le fauvisme, le cubisme, c'est lui. Avant même la guerre de 14, il met les freins et il a le sentiment que la peinture va disparaître si on continue dans cet enchaînement de surenchère dans l'expérimentation. On finira par ne plus peindre du tout. Il était visionnaire. Mais lui a continué de représenter le monde. Voilà, c'est ce qui, au fond, c'est. Vous avez parlé de remords de Claude Monet. Claude Monet, ce qu'il fait, c'est qu'il représente le monde. Eh bien, André Derain continue à représenter le monde. Il est mort en 1954. Il continuait de représenter le monde.
Oui, c'est un homme né en 1880, mort en 1954. Je regardais cette date de naissance. Vous savez, il y a la fameuse douceur de vivre de Talleyrand. Et parfois, quand vous regardez les dates de naissance de certains, vous vous dites, heureux, hop, qui est né à cette date-là parce qu'il a évité de connaître. Lui, Derain, né en 1880 et mort en 1954. Il est de plein fouet dans la Première Guerre mondiale. Il échappe quelque peu à la Seconde Guerre mondiale. Il a des dates compliquées. Quand même.
Oui, pour un artiste, c'est une date extraordinaire. C'est vraiment pour un artiste français. Naître à Paris ou dans les environs de Paris, comme lui, il est né à Chatou, en 1880, c'est une chance extraordinaire. C'est l'occasion de participer à un moment prodigieux dans l'histoire de l'art, singulièrement en France. Tout se passe là. Et en même temps, pour le citoyen, c'est une promesse d'une vie mouvementée, puisqu'il va faire face à deux guerres mondiales. À la déclaration de guerre en 14, il a 34 ans. Il a fait 3 ans de service militaire, au début de 1900 à 1903. Donc c'est quelqu'un qui est marqué par la chose militaire, par la guerre. Et puis, il va être à 60 ans peintre célèbre, donc en vue, donc recherché, en 1940, de 40 à 44. C'est les périodes, une période où la célébrité comporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Mmh.
Alors, on va évidemment développer un peu la biographie Et on ne dit pas la bibliographie, comment est-ce que l'on dit les œuvres, en tout cas, de ce peintre. Mais avant de rentrer dans son histoire, est-ce que vos livres ont toujours un point commun ou c'est uniquement vos goûts, vos envies? Parce que là, je le dis déjà aux auditeurs, le train que va emprunter André Derain, qui n'est pas un train de départ en camp de concentration, c'est tout ce qui fait justement l'intérêt de votre ouvrage, c'est de parler d'un autre train et qui n'est pas forcément très glorieux, en tout cas dont les conséquences seront lourdes pour certains. Ce train va s'arrêter à Bar-le-Duc et on sait, Michel Bernard, que vous êtes un Barrois, attaché à votre région et attaché à cette région tellement impliquée dans l'histoire du XXe siècle.
Oui, originaire de là-bas, comme tout le monde, je me suis intéressé aux gens célèbres de ma région. Il y a beaucoup de militaires, il y a deux maréchaux d'Empire à Bar-le-Duc, qui sont nés à Bar-le-Duc, il y a le président de la République, Raymond Poincaré. C'est un secteur qui est lié là aussi à la guerre, à la chose militaire. À la chose d'État. Il y a aussi quelques artistes, très peu, de peintres. Et il y a un peintre normesien qui s'appelle Jules Bastien Lepage, qui a eu son heure de gloire au XIXe siècle et qui est un grand peintre. Et puis rien d'autre. Si André Derain a fait son service militaire à Commercy, sous-préfecture de la Meuse, 3 ans. 3 ans d'armée, de 1900 à 1903. Donc, ça m'avait attiré mon attention. Et ces 3 années, il était déjà engagé dans la peinture. Il était déjà en train de transformer complètement la manière de peindre. Déjà, dans ses premières œuvres, s'annonçait ce qui allait s'affirmer ensuite avec le fauvisme. C'était un jeune homme qui était à la recherche d'une nouvelle manière. Il est interrompu par en 1900, il faut qu'il parte à l'armée, et il y passe 3 ans, il arrête de peindre.
Et alors cette vocation de peintre, c'est par formation, c'est par histoire familiale, comment devient-il le grand peintre André Derain?
Et il est né en Île-de-France, il est né dans l'ouest de l'Île-de-France, à Chatou, c'est un coin de peintre, hein, c'est vraiment... L'Île-de-France, au XIXe siècle, c'est une région de peintres, et singulièrement ce coin-là. Cézanne a peint dans ce secteur, Giverny n'est pas très loin, ou Peignet-Monet, Pissarro est un petit peu au-dessus, à Erani, juste au-dessus de la Seine. Hein. On est vraiment dans un endroit où il y a beaucoup de peintres, et des peintres célèbres, et des peintres d'ailleurs qui ont bien marché, qui sont connus à ce moment-là. Et le jeune Derain, bien ses parents l'inscrivent à un cours de peinture. Parce que justement, il y a un peintre qui était un ami de Cézanne, qui est là, un vieux peintre, et qui prend des élèves. Et les parents de Derain ont eu l'intuition d'inscrire leur fils, parce qu'il aimait dessiner, à ce cours. Et Derain a appris, comme ça, à peindre sur le motif avec ce peintre ami de Cézanne. Ça ne l'a plus jamais lâché. Alors que ses parents... Pour ses parents, ils espéraient que ce soit un loisir et rien d'autre. Non, il a voulu en faire se lancer dans l'aventure de vivre de sa peinture. Ce qui a horrifié ses parents, qui étaient eux crémiers, c'est-à-dire traiteurs à Chatou, qui étaient des commerçants, de bons bourgeois de Chatou.
Alors quand on s'intéresse à un personnage, à un peintre qu'on aime et que l'on a envie d'écrire sur lui, est-ce que l'on cherche un biais, un prisme, un événement ou bien c'est la lecture de la vie de Derain qui fait que cet événement vous interpelle et que vous avez envie de réfléchir et du coup de le faire réfléchir devant ses lecteurs sur les raisons pour lesquelles il va accepter, puisque disons-le tout de suite à nos auditeurs, en 1941, de faire avec un certain nombre d'artistes un voyage en Allemagne. Donc, j'ai bien dit 1941, on n'est pas en 36 ou en 38 comme ont pu le faire Brasillach et d'autres avant-guerre. Là, on est en 41 et il va donc accepter de partir. Est-ce que c'était un événement que vous connaissiez? Est-ce que c'est un événement qui vous a intrigué? Ou est-ce que c'est un biais d'écrivain pour raconter l'histoire d'André Derain?
Oui, je le savais. Dès qu'on commence à s'intéresser à Derain, dans sa biographie, ça saute, je dirais, au visage. Parce que, eh bien, c'était inattendu. Hein. Autant le voyage des écrivains, Brasillach, Jouhandeau, Drieu-La Rochelle, ça ne surprend personne. Avant la guerre, vous l'avez dit, avant la guerre, ils avaient pris des engagements, des positions qui étaient déjà pro-allemandes. Dans le cadre de Derain, pas du tout. C'est un révolutionnaire de la peinture. Il continue à représenter le monde, je l'ai dit, à faire de la peinture figurative, mais c'est une peinture figurative qui n'est pas académique, qui est moderne, qui est classique, néoclassique, hein, mais qui est moderne, qui est de son temps. On n'a jamais peint comme il a peint. Et il n'essaie pas de reproduire les maîtres anciens. Il s'en inspire, mais il ne reproduit pas leur technique ou leur manière de représenter le monde. Je voulais écrire justement sur ce peintre qui, loin avant, dans le XXe siècle, continue à faire des portraits, à peindre des paysages. C'est ça qui m'intéressait chez lui. C'est ça, cette singularité, ce très grand peintre qui, alors que ses amis sont Picasso, Matisse,
Braque.
Braque, eux, interrogent complètement la représentation du monde, hein, déconstruisent, bâtissent autre chose, s'écartent de plus en plus avec des va-et-vient, dans le cas de Picasso, hein, de la représentation du monde. Derain maintient la peinture figurative. Alors, je voulais écrire là-dessus. Moi, je suis romancier. Quel est l'argument de sa biographie? Quel est le point saillant de sa biographie? Eh bien, le point saillant, c'est ça. C'est-à-dire ce moment où il prend le train à rebours totalement de ce qui était jusqu'alors son image, que ce qui était sa vérité, un peintre humaniste. Et il prend ce train le 31 octobre 1941 qui va l'emmener à Munich. Il accepte de faire cette tournée en Allemagne, à visiter des musées, à visiter des expositions, à rencontrer d'autres artistes allemands. Dans leur pays d'origine.
Oui, alors ce qui est, enfin moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, évidemment, au-delà de la lecture hein, et de l'univers littéraire de votre livre, mais c'est que ce point historique ne m'était pas très connu et que fourmille toute une galerie d'artistes français, d'artistes allemands, de noms d'acteurs de cette période et en sens inverse, ça permet de, si on est un peu curieux, d'aller découvrir qui est ce peintre, d'aller voir ses tableaux, de regarder où ils sont. Alors lui, pour le coup, il a peint mais énormément. Hein. C'est impressionnant. Il y a un site André Derain, son œuvre, et il y a un site aussi sur sa maison de Chambourcy. Je regardais ses tableaux. Enfin, c'est au bout d'un moment, on arrête de les faire défiler tellement il y en a.
Il n'a quasiment jamais cessé de peindre. Et lorsqu'il a eu des moments de parenthèse, elles étaient toutes militaires. Le service militaire, 3 ans, et puis la guerre de 14, qu'il a faite de d'août 14 jusqu'au mois d'avril 1919, parce qu'il a été dans les troupes d'occupation en Rhénanie, il a été libéré, il avait 38 ans. Donc hors ces périodes où, contraint forcé, il ne pouvait plus peindre, il a constamment peint, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, et pendant la période qui a été terrible pour lui, après la libération, après la joie de la libération, qu'il a partagé avec tout le monde, bah, on lui a demandé de rendre des comptes sur ce voyage en Allemagne. Et là, il a eu une période très difficile, parce qu'il était traité comme un paria, mais malgré tout, il continuait de peindre. Hein. Il peignait comme on respire. Quoi. Il ne pouvait pas s'arrêter jusqu'à la fin de sa vie. Hein, il a peint et toujours visage, paysage, objet. Il a fait des miniatures mornes sublimes. C'est un peintre qui ne connaît pas la dépression. Hein. Un équilibre intellectuel sans doute très solide, une bonne éducation et la passion de son art.
Et alors, de son vivant, il est reconnu, apprécié, collectionné, acheté. C'est assez enfin impressionnant. Hein, son œuvre est vraiment reconnue et par les plus grands. Votre livre s'ouvre sur une réception dans un appartement parisien chez un collectionneur qui est un peu son... je sais pas comment on appelle ça, son mécène. Hein,
oui, son mécène, son banquier, somme de confiance et son ami.
C'est ça.
C'est Paul Guillaume.
Ouais, Paul Guillaume, où défile tout un monde artistique extraordinaire. Et puis le livre, ensuite, au-delà de ce voyage, nous le remet aussi dans une vie ultérieure après ce voyage. Et on voit qu'il est vraiment remarqué et apprécié comme peintre.
Oui. Dans les années 20, au moment où je situe cette réception chez le collectionneur d'art Paul Guillaume, il est le peintre le plus célèbre de son temps avec Picasso et Matisse. Hein, c'est vraiment les trois ceux pour lesquels on parle concouramment de génie. Mmh. Hein,
alors Picasso,
ces tableaux se vendent très très cher parce qu'il est repéré très vite par d'ailleurs dès le moment du fauvisme en 1905 au salon d'automne. Qui a lieu donc après l'été 1905, le fameux été 1905 à Collioure où Matisse et Derain, les deux amis ensemble pendant 2 mois, eh bien inventent littéralement le fauvisme. Quelques semaines après, il y a un salon et toutes les toiles sont vendues, en particulier celle de Derain. Elles se vendent très bien. Il n'a jamais conservé une toile de cette époque. Tout avait été vendu. Donc il vide sa peinture, ça rassure complètement ses parents, il vide sa peinture, alors bon, pas dans les grandes largeurs, jusqu'à la guerre de 14, mais il en vit assez bien. Et puis au retour de la guerre, comme s'il avait accumulé pendant ces 4 ans et demi sous l'uniforme, il était mobilisé dans l'artillerie lourde. Et il a fait la totalité de la guerre dans sa batterie d'artillerie lourde. Il était conducteur de tracteurs, c'était les premiers engins motorisés qui tiraient des canons. Parce qu'il était passionné de mécanique et puis il était très grand et très fort. Il était devenu mécano d'ailleurs à la suite de la guerre. Il avait envisagé, mais d'ailleurs, parce qu'il se demandait s'il allait pouvoir redevenir peintre, il s'est dit ce que je pourrais faire, c'est prendre une ferme, je sais conduire un tracteur, je pourrais être fermier. Non, il a repris tout de suite et il a été embauché, il a été libéré au mois d'avril 1919. Au mois de juin 1919, il était à Londres et il faisait les décors d'un ballet à Londres. Il avait été repéré comme particulièrement doué pour faire des grandes formes. Dans un ballet, il faut couvrir des mètres carrés de toile. Hein. Et il savait très bien couvrir de grandes formes, c'est-à-dire les équilibrer. Et il faisait aussi les costumes. C'est un homme qui avait de multiples dons. Il était sculpteur aussi. Il avait... comment on dit, de l'or dans les mains. Et tout ce qu'il touchait se transformait en beauté. Une grâce exceptionnelle. À partir de 1920, alors là, les prix s'emballent, pour Picasso aussi d'ailleurs, et pour Matisse. Hein. Tous ces trois peintres deviennent extrêmement riches. Leurs toiles se vendent à millions. Les Américains achètent beaucoup. Alors, il y a un petit... en 1929, les Américains n'achètent plus, mais les Français, les Européens ont pris le relais. Les Anglais achètent beaucoup de Derain. Hein. Il n'a pas... la crise de 1929 ne l'a pas affecté particulièrement. Il a constamment très bien vendu. Y compris d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, parce que les amateurs de Derain, de la peinture de Derain, lui sont restés fidèles, ont bien fait la part des choses. Hein. Lui sont restés fidèles et jusqu'à sa mort, il a très bien vendu. Et il a vécu, il a vécu comme un grand bourgeois, oui. Il a possédé, un passionné de sport automobile, il a possédé, je me souviens plus exactement le terme, 14 à 17 Bugatti. Hein, dès qu'une Bugatti nouveau modèle sortait, il l'achetait. Bah, ça lui coûtait 2 ou 3 toiles, quoi.
Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, je reçois Michel Bernard, écrivain, et que nous parlons de son dernier ouvrage, L'automne d'André Derain, aux éditions Les Belles Lettres. Et je rappelle les dates d'André Derain, 1880-1954, donc peintre, créateur de ce grand courant de peinture qu'est le fauvisme. Et votre livre se concentre, en tout cas prend pour prétexte, un voyage d'artiste en Allemagne pendant 15 jours. Hein.
15 jours.
Donc, partant de la gare de l'Est le 31 octobre 1941, se rendant jusqu'à Munich, et depuis Munich, ils vont sillonner...
Berlin, Vienne, ils descendent en Autriche, Vienne, Nuremberg, ils vont à Düsseldorf aussi.
Et donc, ce livre, évidemment, Michel Bernard, s'inscrit dans la même veine que le film Les rayons et les ombres, qui parle d'un autre personnage, Jean Luchaire. Se sont-ils rencontrés? En tout cas, ils étaient dans un même univers.
Voilà. Alors, c'est... oui, dans le sens où le rayon de cette... Le rayon, comme on voit bien dans le film de... admirable de Giannoli, le moyeu, c'est Otto Abetz, hein, l'ambassadeur d'Allemagne. Et Otto Abetz est un amateur d'art, c'est un homme cultivé et amateur d'art. Il collectionne, il spolie aussi, il vole, on le voit dans le film. Hein. Donc il s'intéresse, il est chargé par le gouvernement, par les nazis, il est chargé de mener une politique culturelle en France. Hein. Et lui, il le vit comme ça. Il s'agit en gros d'endormir la France, hein, de maintenir la France dans un état de léthargie. L'un des éléments d'ailleurs essentiels dans la mise en état de léthargie de la France, c'est de conserver en Allemagne 1,5 million de prisonniers, de jeunes hommes, de jeunes Français, qui ont entre 20 et 40 ans. Et donc le taureau a été châtré, on en fait une vache et on en tire le lait. Pour les Allemands, les Français sont vaniteux, et ils sont spécialement vaniteux de leur art, de leurs artistes. Et donc on va les caresser dans ce sens. On va montrer que l'Allemagne vainqueur est bienveillante avec la vie culturelle française. Et qu'au fond, Français et Allemands, ont tout pour s'entendre. Hein. Les Allemands reconnaissent la prééminence de la française, ce qui flatte l'orgueil national, considèrent que dans l'Europe de demain, que prépare Hitler, la France a vraiment la carte maîtresse pour être l'institutrice des autres nations européennes. Et dispenser son savoir-faire dans le domaine des arts, de l'art de vivre aussi, hein, de la mode. Bref, on cantonne la France à des fonctions qui sont perçues par les nazis comme tout à fait secondaires, marginales, l'essentiel pour eux étant la guerre.
Oui, alors on voit très bien dans le film Les rayons et les ombres que cela en plus se moule très bien avec un courant d'hommes qui ont fait la guerre, hein, de 14-18, mais n'ont absolument pas envie, 20 ans plus tard, de retomber de nouveau dans une guerre et qui ont une espèce de pacifisme qui n'est pas un pacifisme écolo, bobo, gaucho. Enfin voilà, il ne faut pas du tout le ramener à ce que l'on peut connaître maintenant, mais c'est un pacifisme qui croit peut-être de façon utopique, mais de façon... assez sincère, que c'est possible d'éviter la guerre par une entente franco-allemande au nom d'amitié, de relations. On voit très bien, hein, il y a plein de noms d'artistes allemands qu'il va voir lorsqu'il est en Allemagne dans ce voyage en 1941 et qu'il est tout de même assez content de rencontrer parce qu'il connaissait leurs œuvres, parce que c'était des artistes comme lui.
Alors, Derain, avant la guerre et même après la guerre, n'a jamais eu aucun engagement politique. Jamais. Je crois qu'il se méfiait profondément de cette idée d'engagement politique. Il a essayé, dans les années 30, qui est une période très politique, où justement les intellectuels s'engagent, hein, et les artistes s'engagent, Picasso s'engage, il fait Guernica, etc. Donc Derain est sollicité. Il est sollicité, mais sur la gauche, parce que les amis de Derain sont à gauche. Le type de peinture qu'il produit est plutôt bien vu de l'avant-garde intellectuelle de gauche. Hein. Et il y a notamment Aragon, qui, comme il est un des rares grands peintres à maintenir la peinture figurative, Aragon essaie de le persuader qu'il est un peintre qui pourrait être réaliste socialiste. Hein, et essaie de le tirer sur la gauche. Il refuse. Hein. Il refuse toutes les sollicitations d'ordre politique. Il peint, je crois qu'il se méfie de lui-même au fond de Rhin. C'est un très grand peintre. Il sait ce qu'il veut faire en peinture. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il est capable de faire. Et dans le reste des choses, au fond, il se méfie de lui-même. C'est-à-dire que il n'a pas une pensée très assurée. C'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que au fond, il comprend pas très bien et il veut pas être embarqué contre son gré. C'est le paradoxe du voyage, parce que là, il se laisse embarquer. Mais avant la guerre, il n'y a aucune déclaration politique de lui. On ne trouve sa signature que sur une pétition. Elle est significative. Il pétitionne pour un autre peintre qui s'appelle Freundlich, qui était un peintre allemand, juif allemand, compris comme dégénéré par les nazis, et dont toutes les œuvres ont été détruites en Allemagne, y compris celles qui étaient dans les musées. Et là, il pétitionne pour que les collectionneurs français, les amateurs d'art, s'intéressent à l'œuvre de Freundlich et lui achètent des tableaux parce qu'il est réduit à la misère. Hein, donc il fait preuve de solidarité envers un autre peintre. Parce que ça, là, il s'y connaît. Freundlich, c'est un bon peintre, il faut l'aider. C'est un peintre. Le reste, non. Non, il refuse obstinément. Et d'ailleurs, il résiste longtemps avant d'accepter de prendre le train pour l'Allemagne. Et il sent très bien qu'on va se servir de sa célébrité. Hein. Il résiste, la pression sur lui est très forte, parce qu'il est très célèbre. De tous les peintres qui partent, c'est lui le plus célèbre. Et même si on le rapporte aux écrivains qui sont partis 3 semaines avant, il est beaucoup plus célèbre que tous les écrivains qui sont partis avant. De Rhin, il est connu aux États-Unis. Jouhandeau aux États-Unis, personne ne le connaît. Hein. Drieu La Rochelle, personne ne le connaît. Si vous voulez, l'équivalent de Rhin partant aux États-Unis, ce serait Saint-Exupéry. Hein, parce que Saint-Exupéry était connu déjà aux États-Unis avant la guerre. Et donc pour les Allemands, c'est une prise essentielle. Et donc ils mettent une grosse pression. Mmh. Hein. Ils lui mettent une grosse pression et ils finissent par l'emporter.
Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que je reçois Michel Bernard, écrivain, et qu'avec lui, nous commentons, nous racontons aux auditeurs cette extraordinaire, hein, puisque le mot extraordinaire veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est au-delà de l'ordinaire, c'est inhabituel. Voyage d'André de Rhin en Allemagne en octobre 1941, et le livre s'intitule « L'automne d'André de Rhin ».
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Michel Bernard, vous avez prononcé le mot d'artiste dégénéré tout à l'heure. C'est un terme qui n'est pas le vôtre, hein. C'est un terme officiel, c'est comme ça qu'on les appelait. Et c'est vrai qu'on se demande dans cet ouvrage pourquoi les Allemands ne considéraient pas André de Rhin comme un artiste dégénéré, parce qu'il n'est pas ultra classique et conventionnel. Dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez d'un équilibre que les Allemands appréciaient. Il était ni trop ancien, ni trop moderne, vous l'avez expliqué, il avait mis le frein à temps. Qui étaient les artistes dégénérés? D'ailleurs, c'était beaucoup, vous allez me contredire peut-être, mais j'ai l'impression quand même que les Himmler, les Goebbels, les Otto Abetz, lorsqu'ils prenaient un petit peu pour eux des tableaux qu'ils étaient censés envoyer en Allemagne, c'était beaucoup des tableaux de ces fameux artistes dégénérés, ils les appréciaient en fait, hein.
Alors bon, les Allemands sont complexes. Hein. De Rhin était un peintre dégénéré. Il avait, avant la guerre de 14, il y avait déjà plusieurs musées allemands qui avaient acheté des tableaux d'André de Rhin. De Matisse aussi, de Picasso, peut-être Braque aussi. En tout cas, les Allemands étaient les premiers à s'intéresser à la peinture de Rhin à l'étranger. Avant même les Anglais et les Américains. Les tableaux qui ont été acquis par les musées allemands ont été vendus, une fois les nazis parvenus au pouvoir, comme de l'art dégénéré. Ils n'en voulaient plus, il fallait épurer les musées allemands de ces tableaux qui prenaient des libertés avec la représentation des êtres et des choses. Et donc, ils ont été vendus en Suisse. En revanche, les tableaux des peintres allemands dits dégénérés, eux, ont été détruits. Mais Derain était considéré par les nazis comme un peintre dégénéré. Bon, les nazis, en matière d'art, ils n'y connaissaient strictement rien. Ils avaient un goût atrophié. C'était des brutes. Hein. En revanche, il ne faut pas confondre avec les Allemands, le goût allemand, l'élite allemande, la bourgeoisie allemande, elle, était connaisseuse. Et elle s'intéressait beaucoup à la peinture moderne, plus que la bourgeoisie française. Elle était plus en avance. Et ils ont toujours été un peu... Il y a un goût profond de la modernité en Allemagne. Et les nazis intervenaient à rebours de ce goût profond de la modernité. J'allais dire de la modernité pour la modernité elle-même. Hein. Et parmi les nazis, bon alors Hitler, lui, non. Enfin, pour lui, un peintre impressionniste est un peintre dégénéré, pour Hitler. C'est pas le cas pour Göring. Göring aime bien les impressionnistes. Mais ça s'arrête là pour Göring. Au-delà, ça ne l'intéresse plus du tout. Non seulement ça ne l'intéresse plus, mais il le trouve condamnable. En revanche, von Ribbentrop, il avait déjà acheté un tableau de Derain. Il avait un tableau de Derain dans sa collection. Vous voyez, dans ces dignitaires nazis, on a toutes les gradations du rapport à l'art moderne. La ligne rouge, c'est l'art abstrait. Hein, parce que l'art abstrait est compris par les nazis comme un art juif. Mais à partir du moment où on reste dans la représentation du monde, pour les Allemands de cette époque, c'est intelligible, c'est recevable. On peut acheter, on peut s'y intéresser. Hein. D'ailleurs, le paradoxe du voyage, c'est que plusieurs des peintres du voyage sont des artistes qui ont été considérés comme dégénérés par les nazis. Vlaminck, Otto Frisch, Van Dongen sont des peintres considérés comme dégénérés, dont les tableaux ont été vendus en Suisse dans les années 30.
Mais au musée du Jeu de Paume, nous en parlions avant cette émission, lorsque Rose Valland note scrupuleusement dans sa tête, puis le soir dans son appartement parisien, les tableaux qu'elle a vus encaissés, mis en caisse. Il y a une salle dans le musée du Jeu de Paume où elle sait qu'elle a vu que l'on entrepose des tableaux d'artistes dégénérés et elle voit que des dignitaires viennent en chercher. Et dans le film Les rayons et les ombres, on voit Otto Abetz à un moment qui soulève un rideau pour montrer à Jean Luchaire des tableaux qui sont là et qui n'ont pas tellement l'air d'être des tableaux très classiques. Enfin...
Oui, et vous savez, pour distraire les soldats allemands, on leur jouait du jazz. Il fallait simplement que les musiciens soient blancs. Mais à Paris, il y avait des boîtes de jazz qui se remplissaient de soldats allemands. Hein.
Bah on le voit dans Les uns et les autres de Claude Lelouch, la fameuse boîte de nuit où chante Evelyn Bouix, là, qui joue l'un des personnages. C'est ça, hein, c'est une boîte de nuit où au moment du 31 décembre, je crois que c'est en 1942 d'ailleurs, il souhaite la bonne année, c'est du jazz qui est joué.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'on plaque le goût allemand de cette époque-là sur celui d'Hitler. Mais Hitler est quelqu'un de borné en matière artistique, sans parler du reste. Mais il est complètement borné. Et les gens qui... Alors, il ne fallait pas que Hitler soit au courant que ses collaborateurs étaient collectionneurs de tableaux de Derain ou de Matisse. Mais ils l'étaient, pour un certain nombre d'entre eux. Ce sont des choses assez curieuses. Après tout, ces peintres expressionnistes des années 20 allemands, ces peintres communistes des années 30, ils continuaient à exister, ils étaient encore vivants. Certains nombres étaient morts, mais la plupart d'entre eux étaient encore vivants. Leur goût n'avait pas changé.
Bien sûr, d'ailleurs, lors de ce voyage, donc de 15 jours en la première quinzaine donc de novembre 1941, les artistes français sont emmenés dans des ateliers de sculpteurs, notamment, le sculpteur en question est en vie, il leur montre son atelier, il leur montre ce qu'il fait, et d'ailleurs, ce sont des artistes vivants.
Oui, alors c'est Arnaud Brecker dont ils vont visiter l'atelier, parce que Arnaud Brecker est un des initiateurs de, du voyage. Il a vécu à Paris, à Montparnasse, dans les années 20. Il est fasciné par l'art français, il parle couramment français. Sa femme, qui est d'origine grecque, a été un modèle de Derain, mais aussi de Picasso, enfin de tout le gratin des Montparnasse. Lui, il vit... sa passion, c'est l'art français. Mais sa production de sculpteur, elle fait rire les Français. C'est des choses énormes. Il représente des athlètes, des guerriers, etc. Ça plaît beaucoup à Hitler. Mais tous les artistes contemporains se moquent de ce que fait Brecker. Il a la faveur d'Hitler.
Alors, c'est l'occasion autour de ce personnage, d'Arnaud Brecker, de parler de ce qui va quand même essentiellement motiver André Derain. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce que vous montrez dans votre livre. C'est l'espoir, en allant là-bas, d'obtenir la libération de prisonniers français. Et là, c'est à la fois... émouvant quand même, notamment lorsqu'il visite cet atelier de sculpteurs où il y a pas mal de prisonniers français qui sont embauchés. Et en même temps, c'est presque pathétique qu'ils y croient, enfin, que des hommes comme eux, et on les voit distribuer comme ils le peuvent des listes de noms en espérant que leur voyage va ouvrir des prisons.
Oui. Ils n'ont pas compris à ce moment-là, ils ne sont pas armés pour le comprendre, hein, et Derain encore moins que les autres, en 1941, que en fait, les prisonniers de guerre français ne sont plus des prisonniers de guerre, ce sont des otages. D'ailleurs, on les qualifie toujours de prisonniers de guerre, mais il faudrait les qualifier d'otages, c'était ça. L'Allemagne les tenait, ne les relâcherait pas, parce que la France payait un tribut quotidien énorme, plusieurs millions pour l'entretien des troupes allemandes en France pendant toute la durée de l'occupation. Elle livrait son blé, elle livrait ses usines tournées pour les Allemands. La France était mise au pillage. En revanche, les Français, eux, avaient faim et ne trouvaient pas de charbon pour se chauffer l'hiver. La France était rançonnée par l'Allemagne. Chacun essayait de jouer sa carte. L'opinion était obsédée par le sort des prisonniers de guerre. Pour des raisons très simples, c'est qu'il n'y avait quasiment pas une famille française qui n'avait ou un père ou un fils ou un frère ou un époux qui était prisonnier en Allemagne.
Oui, c'est 1,5 million, hein, je crois.
1,5 million, hein. Oui. 1,5 million. Et à la libération, quand les camps de prisonniers sont libérés, je crois qu'il en restait encore 1,2 million, 1,3 million. Il y avait eu des rapatriés sanitaires, donc il y avait eu quelques libérations, mais au compte-gouttes.
Oui,
Hitler ne voulait pas que l'on relâche les prisonniers français.
Oui, paradoxalement, celui qui a écrit là-dessus et très tôt, c'est le gendre de Laval, René de Chambrun, qui a écrit, je crois, 1,3 million prisonniers d'Hitler, et qui raconte justement le retour de ces prisonniers, qui était donc un enjeu capital pour les Français.
Oui, et la France était littéralement émasculée. Et Hitler voulait que cela reste ainsi. Il avait une guerre à mener contre les Russes, puis ensuite contre les Américains, contre les Anglais évidemment, et ensuite contre les Américains. Il ne voulait pas en plus avoir la France sur le dos. Or, les guerriers français, ils étaient prisonniers en Allemagne.
Et donc, ça n'aboutira à rien, aucun prisonnier...
Non, le voyage ne donnera lieu à aucune contrepartie. C'est Brecker, le sculpteur allemand, qui, parce qu'il employait des prisonniers de guerre français, Brecker avait... Hitler avait donné des moyens énormes à Brecker pour qu'il puisse produire les œuvres sculpturales qui allaient embellir la cité idéale, que le Berlin admirable que Hitler projetait de créer avec Speer. Et donc il avait tout ce qu'il voulait. Brecker avait tout ce qu'il voulait. Il avait le téléphone personnel de Goebbels, et dès qu'il avait besoin de quelque chose, il passait un coup de fil à Goebbels, il l'obtenait aussitôt. Et ce qu'il a obtenu en particulier, c'est qu'on mette à sa disposition des prisonniers de guerre français qui étaient fondeurs, sculpteurs, tailleurs de pierre, pour l'aider dans son atelier. Donc il y avait plusieurs dizaines de prisonniers de guerre français qui avait un régime d'ailleurs un peu plus agréable que leurs camarades, et puis surtout, ils travaillaient, enfin, ils faisaient ce qu'ils aimaient faire, hein, au lieu de ramasser des patates en Silésie. Et ils étaient bien traités par Brecker, et ils travaillaient dans l'atelier de Brecker. Et Derain, lorsqu'il a visité l'atelier de Brecker, avec Van Dongen, il a rencontré ces prisonniers de guerre. C'était un moment un peu gênant pour lui, mais ces prisonniers étaient ravis de rencontrer le grand Derain. Hein, et puis de rencontrer un Français, quelqu'un qui leur rappelait, enfin, qui arrivait de Paris quelques jours auparavant.
Et Arnaud Brecker a pu faire quelque chose ou...
Oui, oui. Brecker, qui n'était pas un nazi, il était admiré par Hitler, mais il n'était pas membre du parti nazi. C'était un type assez sympathique, tous les témoignages s'accordent là-dessus, très francophile. Et lui, il a obtenu la libération de 30 prisonniers de guerre français, des artistes.
Oui, alors évidemment, certains diront 30, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Hein, c'est certain, c'est un petit peu comme l'attentat de Stauffenberg, où certains considèrent qu'il est arrivé tard. Bah, il n'empêche qu'entre juillet, si je ne me trompe, 44, et la fin véritable de la guerre en mai 45, il y a quand même eu cette tentative, et si ça avait réussi, on aurait épargné 10 mois.
Mais on a amusé les Français avec des petites mesures comme ça, mais sur l'essentiel, les nazis ne cédaient rien.
Hein. Bien sûr, oui. Alors donc, l'automne d'André Derain de Michel Bernard, aux éditions Les Belles Lettres, raconte ce voyage. On va quitter un peu l'histoire pour rentrer tout de même dans le phénomène littéraire, parce que c'est un livre avant tout, et vous êtes un écrivain, Michel Bernard. Comment est-ce qu'on construit un livre autour d'un événement et d'un personnage? Parce que c'est trois parties. Cette construction, vous l'avez immédiatement dans la tête, c'est beaucoup de travail, c'est de la presque un scénario, hein.
J'avais quelques éléments que je voyais. Je voyais quelques scènes. Il y avait quelques éléments qui m'étaient familiers, qui faisaient partie de moi-même. Le service militaire de Derain à Commercy, je connais très très bien, c'est chez moi. Donc je vois très bien, pendant 3 ans, il a crapahuté là-bas, etc. Il fait la guerre, notamment à Verdun. Il est en pointe au moment du déclenchement de l'attaque allemande au Bois des Corps. Il est en soutien avec sa batterie d'artillerie lourde. Donc il subit le choc, le premier choc allemand, et il est d'ailleurs très courageux, il est cité à l'ordre de son régiment. Il fait ce train Paris-Munich, eh bien, suit la ligne Paris-Strasbourg, que je connais très très bien. Quand j'étais étudiant, je l'ai prise des centaines de fois, je l'ai prise ce matin pour venir vous voir. Je connais ces paysages par cœur, et je les aime.
D'ailleurs, lui soulève souvent sa vitre, hein, oui. Ou la baisse.
Oui, pour oui parce regarder. Que lui aussi connaît par cœur cet itinéraire. Ouais. Parce que permissionnaire, la ligne Commercy Paris, il l'a faite très souvent. Et puis, la ligne aussi Commercy Nancy, parce qu'il y a une demi-heure de train. Hein, donc, il allait à Nancy quand il avait une permission, parce que c'était la ville. Quoi, hein. Et puis, il y avait des femmes là. Commercy, les perspectives étaient plus réduites. Vous voyez, j'avais quelques éléments comme ça. Lui, l'artiste, ancien combattant, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, ça. J'ai écrit sur Ravel, justement pendant la bataille de Verdun. Monet, il y a un certain nombre d'aspects militaires qui sont liés à la carrière de ce peintre. Donc j'avais une sorte de matière qui m'était familière. Mais je n'avais pas d'intrigue, hein, j'avais pas d'histoire. À part cet événement singulier du voyage donc en Allemagne. Et puis j'aime beaucoup les trains. Le voyage en train, c'est quelque chose de très cinématographique, c'est aussi très littéraire.
Et puis là, on a presque un huis clos, même s'il s'en va dans sa salle à manger à un moment pour dîner, mais on est dans la période train, on est dans un huis clos où il y a tout qui va avec, l'autre qui ronfle, on monte dans sa couchette. C'est vrai que on a toutes les images en tête lorsqu'on voyage avec lui et donc avec vous.
Oui, et en même temps, ça contraint parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le train. Alors, Agatha Christie, elle y place un crime, et puis du coup, Mais un voyage en sleeping car de peintres qui vont en Allemagne, il fallait meubler. Et alors, le train, c'est quelque chose que nous sommes beaucoup à aimer, parce que c'est un endroit où on lit très bien, mais aussi c'est un endroit où on se souvient. On parcourt des paysages, on les a déjà parcourus autrefois, on regarde les différences, et le mouvement du train, c'est aussi un mouvement qui nous projette alors là, le sleeping à 130 à l'heure, 150 à l'heure sur deux rails d'acier, mais en même temps, on fait un voyage à l'intérieur de soi-même. On regarde les gens, nos voisins dans le train, bon, s'ils ne sont pas occupés à regarder des films vidéo, ils sont souvent songeurs, on les voit en train de penser. Donc sur ce peintre que j'aimais, qui avait déjà une histoire, il a 61 ans quand il prend le train, je me suis dit, eh bien, oui, dans ce moment qu'il perçoit comme décisif dans sa vie très vite, et il perçoit très vite que c'est une sottise, avant même de montrer dans le train, il se dit, j'ai fait une connerie là. Et puis une fois arrivé en Allemagne, qu'il voit, qu'il rencontre des prisonniers de terrain, il se dit vraiment que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et donc, il revient en arrière. Et donc, on refait la carrière de ce peintre, on revoit ses amitiés, d'autant plus que dans la cabine où il est avec Vlaminck. Et Vlaminck, c'est son vieil ami. Ils ont démarré dans la peinture ensemble. Vlaminck est de Chatou comme lui. Ils se sont rencontrés dans un train d'ailleurs, en 1900. Le lendemain de leur rencontre dans le train, ils peignent ensemble sur les bords de la Seine, et ils sont dans ce train qui part en Allemagne tous les deux là. Et donc vous voyez le déclenchement de la machine à se souvenir, elle a lieu là. Et alors on le retrouve, Matisse lui a refusé de faire le voyage en Allemagne. Matisse est un grand copain d'un vieil ami de Derain aussi, et puis il y a Picasso qui lui est resté à Paris. Qui reste à Paris malgré l'occupation. Et d'ailleurs, que les soldats allemands, que les officiers allemands viennent visiter, parce qu'ils sont amateurs de l'art de Picasso. C'est contre-intuitif, hein, mais c'est la vérité. Vous voyez, donc j'avais ce mouvement qui projette le train le long d'ailleurs de la ligne de front. Hein, il passe en dessous de la ligne de front, quand il passe à Meaux, à Dormans, à Châlons. Sur Marne, en dessous de Reims, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc, c'est le kilomètre zéro de la voie sacrée qui monte vers Verdun, qui traverse les côtes de Meuse, sous les Éparges, voie combattue Genevois. Tout ça, c'est là. Il passe juste en dessous du Bois le Prêtre, là où a combattu de Segonza, qui est aussi un des peintres amis de Derain, qui est lui aussi ancien combattant et qui est dans le train qui va vers l'Allemagne. Donc, tout cet itinéraire-là, pour ces hommes qui ont fait la guerre de 14, ça leur parle. Chaque nom leur parle. Hein,
Mais quand même, il y a une construction d'artiste, hein, parce que l'écrivain, c'est aussi un artiste de la plume, mais aussi un artiste de la construction de l'écrit, parce qu'il y a ce train, et puis vous avez une très belle formule, vous dites qu'il part en Allemagne pour pouvoir rentrer chez lui. Parce qu'en toile de fond, il y a aussi cette maison de Chambourcy, qui se visite, hein, toujours, que les Allemands occupent. Oui. Et là, on se dit, c'est fou quand même, parce que cet homme, qui n'est absolument pas idéologiquement porté vers le nazisme, qui est un homme déjà d'âge mûr, dont la maison est squattée, dirait aujourd'hui,
réquisitionné
par les Allemands, dont il sait qu'il la maltraite.
Il y a une compagnie d'automitrailleuses qui est installée dans son parc dans sa maison. Oui.
Et il part.
Il espère que les Allemands lui rendront la maison.
C'est ça.
Il lui rendra rien du tout.
Ouais, hein. Ouais. Et donc c'est vrai que cette phrase, elle m'a marqué. Il part en Allemagne pour pouvoir rentrer chez lui. Mmh, c'est très beau.
Oui. Et c'est quelqu'un qui avait horreur des voyages organisés, hein, des voyages en train. Oui.
C'est ça.
La dernière fois qu'il a pris le train. Avant de monter dans celui de 41, et d'ailleurs ensuite il n'est plus jamais monté dans un train. La dernière fois qu'il a pris le train, c'était en avril 19, lorsqu'il a été libéré et qu'il a quitté la Mayence pour revenir à Paris. Après, il n'est plus monté dans le train. Il ne s'est plus déplacé qu'en voiture. Alors là, dans des voitures de sport, il adorait ça. Hein. D'ailleurs, c'est un peintre assez relativement. Il est très français. Il a très peu voyagé à l'étranger. Il n'est jamais allé aux États-Unis, alors que les Américains voulaient qu'il vienne absolument. Il est allé en Angleterre, il aimait beaucoup Londres. Il est allé quelques fois en Angleterre, en Allemagne, mais contre sa volonté profonde. Et un petit peu, il a fait un petit voyage dans le nord de l'Italie, une fois. Il n'est jamais allé à Nice, par exemple, mais il est allé voir les musées italiens du nord de l'Italie, parce que ça l'intéresse énormément. Et puis, il a fait une incursion en Espagne avec Picasso, c'est tout. Tout le reste, l'essentiel, la quasi-totalité de sa production, elle est française. Il a peint en France. Les paysages qu'il peint sont les paysages français. C'est un peintre profondément français. C'est quelque chose qui est... ailleurs, il ne peut pas peindre.
Alors Michel Bernard, je voudrais que nous puissions terminer notre émission tout de même sur l'œuvre d'André Derain et notamment Arlequin et Pierrot qui est là aussi en ligne de fond de ce livre. Mais avant, je voulais parler d'un autre point, c'est le tabac. Dans les rayons et les ombres, moi je suis sortie de là, j'étais dans un nuage de fumée. Il passe l'heure. Temps à fumer. Et lui, André Derain, passe son temps dans ce train. Mais c'est un autre monde, c'est incroyable. On n'en peut plus de leur tabac et de leur fumée de cigarettes.
Oui, ils fument énormément. Ah, et à un moment donné, d'ailleurs, je fais une rencontre avec des prisonniers fortuite, parce que le train s'arrête et là, il y a un commando de travail.
C'est très émouvant ce passage. Oui.
Et là, on a la confrontation entre deux types de Français. Il y a les Français qui fument. Et les Français qui ne peuvent plus fumer, les prisonniers, ils n'ont plus de tabac. Ou alors, les rations sont tellement réduites, mais ceux qui sont fumeurs souffrent énormément du manque de tabac. Mon grand-père était prisonnier de guerre, et je crois que ce qui l'a fait le plus souffrir, bon, et la faim, ils ne mangeaient pas à leur faim, mais le pire, c'était d'être privé de tabac. Et là, donc, on a ces Français qui arrivent de Paris, qui, eux, fument tout le temps et ont des cartouches de cigarettes sur eux. Et puis, c'est leurs compatriotes prisonniers qui, eux, et leur font signe. Avec les deux doigts de fumer, fumer. Et les peintres leur jettent leur paquet de cigarettes. Oui, c'est cette confrontation-là entre les deux France. Et c'est là aussi que les artistes disent il y a vraiment quelque chose qui cloche là. Voilà,
Oui, bien sûr. Voilà. Et en même temps, ça leur a permis de voir, c'est sûr. Alors, Arlequin et Pierrot, ça suit tout votre livre, puisqu'on ouvre votre ouvrage par cette grande réception chez Paul Guillaume en 1935. Et Paul Guillaume, qui était, donc on l'a dit, le mécène, le banquier, l'ami d'André Derain, avait conservé chez lui un des tableaux d'André Derain qu'il avait exposé dans sa galerie peu de temps auparavant. Ce tableau, c'est Arlequin et Pierrot. Pourquoi avez-vous fait de ce tableau la toile de fond picturale, en tout cas, de votre ouvrage ?
C'est un tableau fascinant, qui m'a toujours fasciné. Il est à l'Orangerie, lorsqu'on entre au musée de l'Orangerie, la première toile, la toile qui vous accueille, c'est Arlequin et Pierrot d'André Derain. Une toile très importante, très grande, ils sont presque grandeur nature, Arlequin et Pierrot. Et cette toile est très fascinante, elle est assez dérangeante. Elle est étrange, parce que ce sont des personnages de la Commedia dell'arte, ils sont en train de danser, de jouer de la guitare, et leurs visages sont absolument sinistres. Et le décor derrière eux a l'air d'être une zone irradiée, il n'y a plus rien. On voit une lueur rouge à l'horizon, et puis ils vont vers cet avenir incertain, et sans doute angoissant, puisqu'ils ont ces visages contractés. En contradiction avec leur attitude de danseur. Il l'a peint en 1924. C'est un moment de crise, l'année 24-25. Là, on se rend compte, Bainville avait tout de suite compris que la guerre, la première guerre préparait la deuxième, mais personne ne pouvait y croire. À partir du milieu des années 20, on se dit que ça va recommencer. Voilà, les gens les plus intuitifs. Bainville, c'était par le raisonnement qu'il est parvenu à cette conclusion d'une guerre imminente, une nouvelle guerre imminente, mondiale. D'ailleurs, je crois que Bainville avait donné 20 ans exactement avant la prochaine, et il avait vu très exactement le problème. Mais les artistes, eux, c'est un peu comme les animaux. Ils sentent sous leurs pieds. Ils ne comprennent pas, mais ils sentent sous leurs pieds ce qui va se passer. Et là, je crois que Derain, artiste hypersensible, pas du tout idéologisé, pas du tout intellectuel, extrêmement cultivé. C'est pas un intellectuel, mais c'est un homme de très grande culture. Il avait toujours un livre dans la poche, c'est un grand lecteur. Il a senti qu'il venait de quitter une catastrophe à laquelle il avait participé, activement, terriblement, et qu'on allait vers autre chose qui serait pas beaucoup plus réjouissant, peut-être pire. Voilà. Et je crois que ce tableau, en 1924, exprime ça. Il exprime le génie de l'artiste. Un artiste, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui sent. Et il sent plus fort, plus loin, plus intensément que les gens ordinaires que nous sommes. Et là, dans ce tableau, moi, si je faisais une histoire de l'entre-deux-guerres, je mettrais ce tableau en couverture. Parce que là, on le voit. On le voit, cette angoisse qui monte, hein, qui va s'affirmer de plus en plus. Ensuite, les années 30 vont vivre totalement dans une angoisse là, qui n'est plus du tout souterraine, qui atteint toute la population. Hein. On sent qu'il va y avoir une nouvelle guerre. Dans les années 20, il n'y a que les artistes. Un artiste de génie comme Derain qui le sent.
Merci Michel Bernard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'automne d'André Derain aux éditions Les Belles Lettres. Et puis chers auditeurs, vous pouvez vous rendre au musée de l'Orangerie pour voir Arlequin et Pirot. Vous pouvez aussi aller à Chambourcy voir et visiter la maison d'André Derain et vous précipiter sur cette très belle lecture. Ça se lit très facilement, rapidement. On voyage en compagnie de tas d'artistes aux côtés d'André Derain grâce à la plume de Michel Bernard. Merci beaucoup et chers auditeurs, à mardi prochain. Merci.
Venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin. Émission préenregistrée le 26 mai 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 2 juin de 10h à 11h et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.